Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Vous allez loin? Non, pas. Moi, je ne vais pas trop loin. Je reviens d'une soirée de chez des amis. Autrement, je ne serais pas sorti. Et vous? L'homme ne dit rien. Le jeune homme continue. C'est dur la vie en ce moment. Avec tous ces travaux qu'il y a à Paris, c'est pas ça facile de trouver un appartement à un prix abordable. Ah, me voici arrivé. S'arrête devant une allée d'un immeuble cossu. L'inconnu reste derrière lui. L'homme met la serrure, met les clés dans la serrure de la porte de l'allée. La porte s'ouvre. L'homme qui est derrière lui. Vous êtes arrivé, vous aussi? L'homme plaque la main sur la porte ouverte et pousse le jeune homme dans l'allée en entrant. La porte se ferme derrière eux. Apeuré, lui dit: mais qu'est-ce que vous voulez? Mon argent? Je peux vous donner ma carte? Il fait le geste de prendre sa carte dans son portefeuille, la poche du revolver de son manteau. Mais l'homme, des deux mains, l'arrête de geste et le secoue. Tout à coup, le jeune homme panique. Et voir de la lumière de l'allée, le visage osseux de l'homme, le cadavresque de la personne. Il ouvre la bouche pour pousser un cri, et l'homme le pousse. Un geste brusque, il le pousse en arrière et le plaque, le dos contre le mur. Tout près de lui, en fixant le jeune homme, il sort de sa poche, de son manteau, un couteau à grand arrêt. Ouvre le couteau et d'un geste, en donne un coup. Dans le ventre du jeune homme. Jean apparaît sur le manteau. Tache sombre. Le jeune homme se tord de douleur. La main sur la plaie. Ses mains sont pleines de sang. L'homme, d'un coup de pied, renverse le jeune qui tombe sur le dos. Et avant qu'il ne réagisse, il donne des coups furieux, des coups de couteau dans le ventre. Il sent que le gicle, gicle. Les coups sont tellement rapides que le jeune homme ne peut réagir. Il a juste le geste de se protéger son visage. Il crie de douleur à chaque coup de couteau. Crie, crie. Ses cris résonnent dans l'allée. Il est impossible que l'on n'entende pas ces plaintes. Mais les gens ont peur, ne pas venir à l'aide. Donne des coups, des coups. Il s'en gicle sur ses vêtements, sur son visage. Puis, et un cri de plus. Tueur est en sueur, essoufflé. Ils étaient arrêtés. Il lâche le couteau ensangloté à terre. Le jeune homme est dans une mare de sang. Se penche sur sa victime. Le visage torsé, rougi. L'homme urine sur lui. Sur le visage du jeune homme, puis le déshabille. Découvre un corps rouge de sang, plein de coups de couteau. L'épaule, lui arrache un bout de chair qu'il mange et se couche sur sa victime, continue son festin, un grand coup de temps, il déchire la chair pour la manger, l'épaule, le thorax, etc. Il enfonce sa tête dans une chair de mare de sang. Il mange, mange, même le sexe qui a eu une dernière érection à cause des coups de couteau. Ses vêtements sont rouges de sang. Son corps aussi. Se redresse, ne reste plus que de longs bouts de chair, déglingués de jambes, de bras, la tête tenue par des os dans une mare de sang. L'homme sort de l'allée. Il fait encore nuit et s'enfonce dans la nuit. Un matin, vers les 9h, arrive à Paris un petit camion fermé par une barge derrière. D'un camion qui vient livrer des fruits et des légumes, d'un primeur qui habite dans une ferme à une vingtaine de kilomètres de Paris, le père Harvey. Il vient faire les marchés une fois par semaine. Un marché qui se trouve dans un quartier populaire, pas bien loin du Panthéon, dans le 14e. À 9h15, le père Henri, qui est un grand homme, un peu fort, jovial, habillé d'un pull noir, d'un pantalon gris, casquette en velours. Il vient d'arrêter son camion pour déballer ses petites affaires. Sort du camion et va à l'arrière pour débarcher. Il ouvre la bâche. Là, il voit assis contre les cageots un jeune garçon dans les 10 ans, mince, comme le sont les enfants de cet âge, blond, qui ondule, yeux bleus profonds, un magnifique visage angélique. Il est habillé d'un vieux pantalon velours marine et d'un blouson noir. Le secoue et lui dit: qu'est-ce que tu fais ici? L'enfant se réveille complètement et dit: rien, monsieur. Qu'est-ce que tu fais dans mon camion? J'ai rien fait de mal, monsieur. Je voulais juste aller à Paris. On lui demande: tu n'as rien volé, j'espère? Non, monsieur, je vous le jure. Et l'enfant se met à se sauver en courant. L'homme lui crie: viens, reste, viens. L'enfant a disparu dans la foule. L'homme soupire et dit: je ne sais pas ce qui va lui arriver, pauvre gosse. L'enfant court, court, effarouché. Court pendant un certain temps. S'arrête essoufflé, se trouve sur les quais de Seine, s'assoit sur le rebord du pont et regarde les péniches passer. Bâille, et il a faim. Ça fait depuis 5 heures du matin qu'il a quitté son village. Un village où il avait été placé dans une ferme parce que ses parents sont morts. Lorsqu'il avait 5 ans, dans une tuerie, en pleine nuit, le juge, pour enfant, l'a mis dans cette famille de fermiers. Parce que les orphelins, on ne sait pas trop quoi en faire, et il faut bien les mettre quelque part. Et puis, il vaut mieux que les enfants soient maltraités en dehors des lieux où l'État en a la charge. Alors, on peut les mettre dans des orphelinats. On les place chez des particuliers. Les paysans, bornés, se traitaient de moins en moins bien. Parce qu'ils voulaient en faire leurs domestiques. Ils buvaient beaucoup. Et comme ils voulaient que l'enfant fasse un peu de plus en plus chaque jour, et qu'il n'était pas assez costaud pour ça, cela les énervait. Et ils le battaient. Le nourrissaient de moins en moins. L'assistance ne faisait aucun contrôle pour savoir si les enfants étaient bien ou maltraités. Et puis un jour, l'enfant, se sentant grand, en a eu assez. Il avait mal de partout. Matin, alors que les fermiers étaient encore endormis, ivres morts, il les a quittés, a marché pendant quelques jours dans la campagne, mangeant quelques fruits, dormant à la belle étoile. Heureusement, qu'il ne faisait pas froid. Et il est arrivé ici. Il est arrivé ici grâce à une camionnette qui stationnait devant un café. Il s'est caché derrière la Borche. Le camion l'a amené à Paris. Et en route pour Paris. Maintenant, il est à Paris. Il va falloir qu'il trouve à se faire un peu d'argent pour manger. Je me demande comment il va faire. Il a faim, très faim. Il n'a pas eu l'idée de manger durant le trajet. Se lève et marche le long des quais. C'est la première fois qu'il est dans une grande ville. Les maisons, la foule l'impressionnent. En longeant les quais, de l'autre côté de la chaussée, il n'y a peu de magasins. Cela lui suffit pour être impressionné. Il voit devant lui cette grosse masse qui ressemble un peu à un château. Arrivé près du château, il lui semble moins important qu'il ne le pensait. Et puis le bruit des cloches lui dit que c'est une église. Il est arrivé du côté jardin. Là, il voit des tant de gens regarder l'église, la photographier. Il y a beaucoup de monde. Il décide de s'asseoir sur le banc et de regarder. Il a très faim. Les gens qui passent devant lui lui sourient. Même certaines personnes se permettent de dire « Ce petit garçon qui sourit, n'ose pas leur demander à manger. » Certains, en passant, mangent un gâteau. Cela lui donne infiniment envie. Tout à coup, il voit au milieu de la foule un garçon de 12-13 ans, grand, mince, blond, lui aussi, visage un peu osseux et un peu fluide, mais joli. Il porte un jean et un blouson marron. Il a à la main une casquette de marin marine. Le garçon le voit aller venir au milieu de la foule. Semble chercher quelque chose. Puis, il voit mettre un papier froissé dans la poche d'un homme et s'en aller. Il fait plusieurs fois ce petit geste de mettre le papier dans la poche des gens. Le garçon voit le petit garçon l'observer. Il regarde bien en face. Se retourne. Il regarde le petit garçon. Et va vers lui. Il lui dit « Salut, salut !» Le grand demande « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Bien, je te regardais. Qu'est-ce que tu faisais ?» Le grand lui dit rien. Des farces, c'est toi. D'où viens-tu? Le petit lui dit. Je ne sais pas. De loin. Le garçon s'assoit à côté de lui, sur le banc. Il lui dit. C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu fais à Paris? Rien. Je viens tout juste d'arriver. Tu ne connais personne?
Non.
Personne ne te cherche?
Je ne crois pas.
Je me suis parti de chez mes maîtres, il y a une semaine. Le grand réfléchit et lui dit, moi c'est Yann, et toi?
Moi c'est Didier.
Yann lui dit, eh bien Didier, tu n'es plus seul. Désormais, nous sommes deux. Et toi et moi, à la vie, à la mort.
Didier bâille et dit, j'ai faim. Je ne sais pas, on pourrait trouver quelque chose à manger.
Yann réfléchit, regarde bien Didier. Tu as quel âge?
10 ans.
Pas très costaud pour ton âge. Et tu étais bon à l'école?
Je ne sais pas, je suis presque jamais allé à l'école.
Et je suis bon, tu sais lire?
Yann lui dit.
Pas grand chose enfin.
Tu as de très jolis yeux et une peau très douce.
On ne sait jamais, ça peut toujours servir.
Didier lui dit,
oui, à quoi?
Rien,
à faire un peu d'argent, comme ça.
Bon, je connais une personne très bien,
il peut t'héberger pendant quelque temps.
Et gratis.
Nourri et tout.
Cette personne est très gentille.
Je te présente à lui parce que moi, il m'aime bien.
Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je veux bien.
Et elle lui dit,
n'ai pas peur, il est très gentil et aime beaucoup les enfants.
Tu viens?
Oui.
Et se lèvent tous deux
et s'éloignent.
Yann mène le jeu de garçon dans des ruelles sombres, tristes, qui sentent mauvais, aux maisons délabrées. Il s'éloigne du centre et s'enfonce dans des rues sinueuses où l'on rencontre de drôles de types.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.